sont de plus en plus nombreux dans les rues de nos villes et parmi eux de plus en plus nombreux à dépasser les 50 ans. 18 à 20% des sans-abri pourraient être classés dans la catégorie senior. Et c'est pour eux que le SAMU social lance aujourd'hui à Paris une campagne d'appel aux dons pour ne pas les laisser vieillir dans la rue. C'est pour eux aussi et pour lutter contre le sans-abrisme en général que le gouvernement a lancé son plan quinquennal pour le logement. Le logement d'abord, auquel se sont associés 24 villes ou territoires, car il n'y a pas de retour à la vie sociale sans logement, un logement qui soit pérenne. Alors comment faire dans une situation budgétaire contrainte pour l'État et les collectivités, alors même que les situations de précarité augmentent? Comment financer ces milliers de logements qui seraient nécessaires quand les délais d'attente pour un logement social se comptent parfois en années? Et après le logement, comment accéder au marché du travail? Avec quel accompagnement? Pour en débattre et brosser l'état des lieux du sans-abrisme en France aujourd'hui, nos invités ce soir, Thomas Baude, coordinateur de la mission Interface au SAMU social de Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Annie Yagg, adjointe au maire de Montpellier, déléguée aux affaires sociales, elle est en duplex avec nous de France Bleu Hérault, bonsoir madame.
Bonsoir.
Nous serons en ligne tout à l'heure dans un instant avec Dominique Versini, adjointe au maire de Paris, chargée des solidarités et de la lutte contre l'exclusion. Les sans-abri, comment leur trouver un toit? Le téléphone sonne, c'est jusqu'à 20h. Vos questions et témoignages, bien sûr, au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Alors avant toute chose, Thomas Baude, et nous irons voir à Montpellier ce qu'il en est dans un instant, il n'y a pas qu'en hiver hein, qu'un sans-abri peut être en grande difficulté, la canicule aussi est aussi très difficile à vivre, j'imagine.
Oui, on le rappelle, hein, de toute façon les personnes sans-abri meurent plus l'été que l'hiver, notamment dû en manque d'associations qui sont là l'été, et puis là en période de canicule c'est encore plus tragique, hein, puisque voilà, il y a de plus en plus de gens qui décèdent de déshydratation et tout ça. C'est pour ça que le SAMU social a augmenté un peu ses effectifs pour ce soir, avec une maraude de bénévoles partenaires en plus. Et puis on ouvre aussi nos accueils de jour un peu plus dans le temps, dans la journée, pour que les gens puissent s'abriter, rencontrer un médecin. Et bien sûr, la mairie de Paris, on parlera sûrement Dominique Versini, ont ouvert des salles pour les femmes et les femmes enceintes.
Mais c'est pas le même dispositif qu'en période de grand froid, malgré tout.
Non, bien sûr.
Annie Yagg, à Montpellier, pareillement, on a relancé le dispositif pour les périodes extrêmes.
On a la chance en ce moment de ne pas être en alerte canicule, mais lors de la précédente alerte au mois de juin, oui, nous avons relancé tous les dispositifs que nous avons mis en place, l'ouverture de salles climatisées, l'ouverture dans la journée également, parce qu'on s'est aperçu que les personnes avaient du mal, même dans la journée, à rester dans un endroit qui soit un peu rafraîchi. Ce dispositif concerne bien sûr les personnes qui sont dans la rue, mais aussi nous avons ces mêmes dispositifs sur plusieurs salles de la municipalité pour les personnes âgées, les personnes qui tout simplement ont besoin de se rafraîchir dans la journée.
Alors, ce qui nous amène à parler du sans-abrisme ce soir, c'est votre campagne, Thomas Baude, une campagne lancée par le SAMU social à Paris. Alors, en direction prioritairement des seniors, il y a de plus en plus de seniors, donc on estime à 18-19% les plus de 50 ans aujourd'hui dans les rues.
Oui, c'est ça. En fait, c'est les chiffres qu'on a recueillis, nous, au 115, c'est-à-dire que on observe une augmentation du public de plus de 50 ans qui nous appelle, et pour lequel il n'y avait pas de mission spécifique chez nous au SAMU social. Pour accompagner ce public-là, les causes elles sont multiples, hein, notamment dues aux baby-boomers qui arrivent à la retraite. On voit aussi que les soins apportés aux sans-abri s'améliorent, et donc les personnes vieillissent un peu plus qu'avant, et puis un peu plus de place aussi permet aux gens de se mettre à l'abri et leur permet de garantir un petit peu plus de vie en plus, quoi.
Mais l'objectif de cette campagne, c'est pas de leur trouver des places d'urgence, ça on sait faire à peu près, hein, c'est de trouver des logements durables. C'est là toute la difficulté du sans-abrisme en général, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. C'est l'idée un petit peu de la mission Interface, c'est d'accompagner les personnes de plus de 60 ans. C'est-à-dire que l'espérance de vie à la rue, elle est de 50 ans. Nous, on accompagne des gens de plus de 60 ans, donc c'est vraiment des survivants de la rue qui luttent un petit peu chaque jour pour survivre. Et nous, on essaie de leur trouver avec ma collègue des établissements pérennes. Donc ça peut être médicalisé, mais ça peut être aussi du logement tout à fait classique pour qu'ils puissent continuer leur vie comme ils l'ont commencé.
Alors, à propos de logement pérenne, Rennes à Niag. Donc Montpellier s'est engagé dans l'opération Un logement d'abord, lancée par le gouvernement l'année dernière, comme 24 villes et agglomérations. C'est pour passer justement de l'hébergement d'urgence au logement pérenne, avec un accompagnement social adapté. Vous avez un premier bilan de cette opération sur votre ville ?
Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires. Nous avons eu la chance d'être retenus parce que je pense que c'est une chance de pouvoir partir sur de nouveaux dispositifs sur les logements pour les personnes qui sont dans la rue, mais aussi les personnes qui sont en difficulté, même si elles sont pas dans la rue ou en urgence familiale. Nous sommes partis avec l'État, en collaboration avec l'État, sur des objectifs bien précis sur 5 ans. Nous voulons 200 logements supplémentaires dans les bailleurs publics, pour les bailleurs publics, et 100 logements supplémentaires dans le privé, et créer 5 pensions de famille qui s'adressent à des personnes qui sont dans la rue mais qui ont des problématiques bien particulières, soit psychiques, psychiatriques ou addictives, voire polyaddictives.
C'est ça, les solutions, c'est soit la création de pensions de famille pour les sans-abri peut-être les plus fragiles, ou alors c'est l'intermédiation locative, comme on dit, c'est-à-dire l'appel aux propriétaires privés.
Oui, alors on fait appel aux propriétaires privés pour trouver des logements, en les incitant à mettre à disposition des logements à bas loyer, en les aidant par exemple à les rénover ou en leur proposant des aides qui existent déjà dans ce dispositif. En contrepartie, on leur demande un loyer plus bas. Mais l'important, c'est pas seulement le logement, c'est aussi l'accompagnement social de ces personnes, parce que c'est des personnes qui sont dans la rue depuis très longtemps, qui ont vraiment errer sans vraie existence sociale, et qu'on doit reconnecter à notre société. Et pour les reconnecter à notre société, il faut les aider à résoudre tous les problèmes, tous les freins à cette insertion.
Et notamment les problèmes de l'emploi. Nous aurons un témoignage intéressant dans un instant à ce sujet. Mais d'abord, on va écouter ce que veut nous dire Lise, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Lise.
Oui, bonsoir. Effectivement, je vous appelle de Lyon et je voulais en fait témoigner du fait que je fais partie d'un collectif à l'école de ma fille qui a 10 ans. Et il y a un collectif de parents qui ont décidé de refuser d'accepter le fait qu'il y ait des jeunes enfants dans les classes de nos propres enfants qui viennent de la rue, puisque c'est une réalité. Il y a des familles qui dorment à la rue tous les soirs, et que face à cette réalité et au dynamisme de l'équipe éducative qui ne veut pas accepter cette situation, on a créé un collectif. Il faut savoir que sur Lyon, en fait, il y a beaucoup d'écoles qui sont très actives et qu'on a créé même un collectif des collectifs qui s'appelle Jamais sans toi. En fait, on vient en aide à ces familles qui sont souvent des familles qui au regard de la loi devraient être logées, mais qui concrètement ne le sont pas, donc qui dorment à la rue. Et nous, on est là pour les soutenir et on les accompagne chez l'avocat, on les accompagne chez l'assistante sociale. Par exemple, moi, à l'heure actuelle, j'appelle tous les jours le 115 au nom d'une famille qui est à la rue, dont on a découvert la situation 2 jours avant les vacances scolaires. Et en fait, on a fait marcher la solidarité de ce collectif. On les loge dans nos propres logements quand on part en vacances. On paye des nuits d'hôtel, des choses qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on est obligé de faire. Et il faut savoir que le reste de l'année, ça peut aussi nous arriver fréquemment sur Lyon, et notamment dans notre collectif, de réquisitionner l'école et de faire dormir les familles dans les gymnases. Alors, c'est des choses qui sont très, très peu acceptées. Vous imaginez bien qu'en général, ça passe assez mal. Mais en fait, on vient et on occupe l'école jusqu'à ce que les familles aient des solutions. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que toutes ces familles... En fait, il y a deux situations. Il y a des familles qui sont dans l'errance et qui partent de l'école. Et donc, on ne les revoit pas. Ils partent des fois dans d'autres villes. Mais les familles qui restent dans l'école... La plupart du temps, on arrive à faire aboutir une situation parce que le collectif est là. Parce qu'on demande des audiences aux élus de la métropole, parce qu'on demande des audiences au préfet, parce qu'on est là pour les accompagner chez l'avocat, l'assistante sociale, et qu'en fait, au regard du droit, ils devraient être logés. Et que c'est notre propre solidarité, notre volonté de ne pas accepter que des enfants dorment dehors et arrivent à l'école avec des morsures de rats, parce que c'est ça qui se passe. C'est de voir des maîtresses qui pleurent en disant « j'ai un enfant qui vient de dehors, qui dort dehors avec des fois des mères enceintes ». eh ben c'est notre propre action de citoyen qui fait que en fait ils aboutissent parce que les gens qui sont en face se disent ben cette personne qui est isolée, elle a un collectif derrière qui la soutient. Et du coup, ben, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, hein, comme on vous dit que nos actions solidaires, peut-être, hein, on a mis 200 euros sur un compte bancaire, qu'on arrive à faire par des bouteilles, des actions, ce genre de choses. Mais en fait, ben, là, il y a une maman qui est dehors et en fait, on la loge bon an, mal an, chez l'un qui part, chez l'autre, de nuit d'hôtel. Et voilà. Mais surtout, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'en fait, ces familles, elles, au regard de la loi, elles devraient être logées et qu'elles sont à la rue parce que en fait, on n'applique pas la loi et qu'on arrive à faire appliquer la loi que quand il y a un collectif pour les soutenir.
Et oui, c'est la loi d'Allo. Merci Lise pour ce témoignage. Initiative citoyenne admirable. Annie Yag, on ne fera rien évidemment sans s'appuyer sur la mobilisation citoyenne et les associations. Hein. D'ailleurs, le plan logement d'abord et vous-même à Montpellier, vous vous appuyez beaucoup sur les associations.
Absolument. Les associations, elles maillent tout le territoire. Elles sont une part importante de l'action sociale. Nous les soutenons financièrement, mais aussi en mettant à disposition des locaux. Elles ont une spécificité, chacune. Et on associe les associations selon les projets que nous avons à toutes les actions. Et dans le plan logement d'abord, on le fait aussi. Et ce que je peux dire en complément, c'est que non seulement on associe les associations à nos réflexions et à nos projets, mais en même temps on associe aussi des représentants des personnes qui vont bénéficier de ce dispositif pour qu'ils nous donnent leur avis et qu'ils nous dirigent et nous disent au moins si on est sur le bon parcours et si c'est ce qu'ils veulent réellement. Parce que en tant que politique, en tant qu'institutionnel, on peut inventer n'importe quel dispositif s'il n'est pas fait en corrélation avec les besoins réels du territoire, il va être soit inefficace, soit pas assez efficace. Donc le but, c'est vraiment de faire de la participation, de la démocratie participative. Nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à Montpellier et qui nous permet d'être plus pertinent, plus efficient, plus rapidement et à moindre frais. Que l'on dépense inutilement... Oui. Il est dépensé.
Sachant, Annie Yag, je crois savoir qu'il y a quelques milliers de personnes qui n'ont toujours pas de solution d'hébergement à Montpellier, hein, comme partout. Hein.
Alors, bien sûr, le logement social...
Il y a un délai d'attente très long pour le logement social.
Il y a un délai d'attente très long. Pourtant, on a rempli nos objectifs d'augmenter de 35% la production de logements sociaux. Peut-être qu'il faudrait aujourd'hui, de manière nationale, se poser des questions sur les critères d'accessibilité au logement social. Peut-être qu'ils sont, en tout cas, plus en adéquation avec la situation des Français. Il y a beaucoup de Français qui sont en difficulté, beaucoup de personnes qui travaillent et qui sont devenues des travailleurs pauvres et qui se retrouvent dans de grandes difficultés pour accéder à un logement et surtout ensuite le conserver, puisqu'il faut payer un loyer, payer des charges. Donc l'accessibilité au logement social... Je pense, en tout cas c'est une idée personnelle, hein, qu'elle devrait être revue parce que, et peut-être baisser un peu le plafond qui permet d'accéder au logement social, parce que en dessous de ce plafond et en même temps sur le plancher, on n'est pas bon. Alors, on voit bien que les personnes soient en dessous du plancher et elles ont de grosses difficultés à accéder à un logement parce qu'elles ne sont pas solvables, très clairement. Et celles qui sont au-dessus, finalement, elles pourraient accéder à un logement privé.
Alors, Lise est toujours avec nous à Lyon. Lise, vous vouliez ajouter un renseignement pratique ?
Oui, je vous prends pas beaucoup de temps. Je voulais juste vous dire que je crois la solidarité et qu'on a mis en place une cagnotte qui s'appelle Solidarité Gilbert Dru. Et je voulais juste dire à tous vos auditeurs que cette cagnotte est vraiment utilisée pour aider les familles sans-abri et que non seulement elle aide les familles de l'école Gilbert Dru, mais qu'après on répartit éventuellement sur l'ensemble des écoles actives de Lyon.
Merci à vous encore une fois pour ce témoignage. Thomas Baude, c'est exactement ce que vous voulez faire. Hein. C'est un appel aux dons que vous lancez ce soir au SAMU Social de Paris.
Oui, c'est un appel aux dons, parce que c'est vrai que nous, on accompagne 250 personnes. On est deux travailleurs sociaux. Clairement, on manque de moyens pour pouvoir accompagner au mieux le public senior à la rue. Donc là, l'idée de cette campagne, c'est aussi de permettre aux gens de mieux vieillir à la rue et de pouvoir les accompagner vers du logement pérenne et digne. C'est vrai que ce que disait la personne qui parlait là sur le logement social, nous aussi, on galère aussi beaucoup avec le logement social. On accompagne très peu de personnes vers le logement social, mais plus vers des logements de la mairie de Paris, qui, grâce à elle, nous permet de pouvoir accéder à des établissements qui soient sociaux, médico-sociaux, et qui accueillent notre public la manière la plus digne possible, quoi.
Donc là aussi, renseignements pratiques, c'est un site internet pour vous joindre.
Oui, voilà, sur le site du SAMU Social, directement, il y a un site dédié au don. Je vous invite vraiment à tous vos auditeurs à aller sur le site du SAMU Social pour donner un euro, ça suffira.
Voilà, intitulé de la campagne, rappelons-le, ne les laissons pas vieillir dans la rue. Nouveau témoignage, celui de Marie-France qui nous appelle de Gif-sur-Yvette. Bonsoir Marie-France.
Oui, bonsoir messieurs, dames. Voilà, moi je suis restée 10 ans SDF à Paris, parce que quand je suis arrivée, il fallait le montant deux fois le montant du... Voilà, je n'avais pas.
Vous n'avez pas pu accéder à un logement social, c'est ça.
C'est-à-dire, en fait, je trouve absolument scandaleux qu'il faille attendre 7-8 ans pour avoir un logement. Tout de même, il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles, parce que s'il n'y en a pas, il faut en construire. Hein. La dignité d'être, la conscience morale, nous fait penser que c'est tout de même une forme de racisme social de laisser les gens comme ça à la rue. Hein, et c'est ne pas leur dire de mourir, mais laisser crever. Donc c'est pas tout à fait non plus, c'est pas très gratifiant pour la société dans laquelle nous vivons.
Mais vous-même, comment vous en êtes-vous sorti?
Moi, je suis dans un appartement social au bout de je sais pas combien d'années, très mal isolé, très très chaud l'hiver, très très froid l'hiver, très chaud l'été, mais c'est le mieux que rien, et c'est bien quand même, parce que c'est au lieu de se retrouver vivre dans son sac, ne pas savoir même pas pouvoir se faire un œuf sur le plat ou un plat de pâtes, c'est contraire à la dignité d'être, hein. Parce que on va mettre les valeurs, j'aime pas beaucoup le mot moral, mais tout de même, mettre les vraies valeurs à leur place. La vie est un droit pour tous, mais encore en faut-il en avoir le moyen, parce que, regardez dans d'autres latitudes, quand vous voyez un enfant qui meurt de faim, vous lui dites, mais tu sais, toi, tu as le droit de vivre, mais comment? Avec quoi? Eh ben, c'est pareil. C'est pas pareil, c'est moins dramatique, mais c'est, voilà. Hein, il faut tout de même, voilà. Et je vous dirai au monsieur, s'il vous plaît, parce qu'il n'a pas laissé le numéro de téléphone, moi j'ai pas internet, j'aurais bien voulu faire un petit don.
Et le monsieur du SAMU social, oui. Il va vous donner tout de suite le numéro, Thomas.
Alors, il n'y a pas de numéro de téléphone, je vous invite vraiment à aller sur internet et aller sur le site du SAMU social.
Ah, j'ai pas internet, moi je suis un peu malvoyante, donc.
Alors comment fait-on, Thomas Beaune?
Écoutez, vous mettrez. Là, vous avez mon numéro de téléphone. Et la dame peut me rappeler pour me donner les conditions dans lesquelles je pourrais faire un don.
D'accord, pas de souci.
Hein?
Pas de souci.
Voilà. Alors moi, vous voyez, je pense, messieurs, qu'il faudrait tout de même prendre le taureau par les cornes et vraiment se dire que la vie est un droit pour tous, mais sans moyens, on ne peut pas vivre, voyez.
Merci à vous de ce témoignage, Marie-France, de Gif-sur-Yvette, et on va essayer de trouver une solution pour vous joindre. Vous parlez de moyens pour les sans-abri, effectivement, pour pouvoir s'en sortir. Il y a le logement, mais après, il y a aussi l'emploi. Je voudrais vous faire partager cette expérience qu'a lancée l'association Entourage, un réseau appelé LinkedIn Out, sur le modèle de LinkedIn que tout le monde connaît, un réseau de partage de CV lancé au début de ce mois et qui connaît déjà son petit succès. Fleur de Russe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la chef de ce projet LinkedIn Out, donc qui met en relation des sans-abri avec certains de leurs collègues qui, eux, s'en sont sortis et sont revenus sur le marché du travail. Et vous avez déjà un premier petit succès depuis un mois.
Oui, tout à fait. Alors, j'apporte juste une rectification sur la cible du projet. Effectivement, la cible est beaucoup plus large et s'adresse vraiment à toute personne, aux personnes en fait précaires ou exclues en capacité de travailler et qui sont motivées pour ça. Voilà aujourd'hui ce que permet la plateforme LinkedIn, c'est-à-dire d'avoir les CV de ces personnes-là sur cette plateforme et pour que en fait chaque citoyen puisse partager sur son propre réseau un ou plusieurs CV de personnes précaires ou exclues qui ont besoin d'avoir de la visibilité et des opportunités d'emploi qui soient générées via le réseau.
Et donc des opportunités d'emploi, vous en avez eu ?
Oui, on en a eu. Alors, au bout de 2 semaines, hein, c'est vrai que le premier bilan est très positif. Au bout de 2 semaines, c'est au lancement du projet, nous avons reçu à peu près 150 offres d'emploi en fait pour 15 candidats, une dizaine de demandes de partenaires avec voilà des grandes entreprises, des startups, mais voilà, donc ce qui fait. Je pense qu'on peut arriver facilement à 200 offres d'emploi, du coup, depuis 2 semaines, via notre plateforme LinkedOut.
Et ce n'est pas seulement un partage des CV, il y a aussi derrière un accompagnement social, j'imagine ?
Tout à fait. Alors, il ne s'agit pas d'un accompagnement social, mais d'un coaching de retour à l'emploi, c'est-à-dire que chaque candidat est accompagné de manière personnalisée, individualisée, par un bénévole coach que l'association, en partenariat avec des professionnels de l'insertion et de l'exclusion va former. Et le but, c'est vraiment de pouvoir que le coach soit un soutien pour le candidat dans sa recherche d'emploi lors de sa prise de poste et qu'il puisse suivre l'intégration du candidat une fois que celui-ci est en entreprise et faire également le lien avec l'employeur. Donc, c'est vraiment un soutien tout au long, du chemin de la réinsertion.
Et puis, c'est un soutien psychologique. On a le sentiment de ne pas se sentir seul, j'imagine, aussi.
Tout à fait. Mmh. Tout à fait. La mission des bénévoles coachs, c'est vraiment de pouvoir encourager et soutenir moralement le candidat à toutes les étapes du parcours. Et chaque candidat qui intègre aujourd'hui le dispositif LinkedOut est vraiment intégré dans la communauté d'entraide et d'amitié, entourage de manière plus globale et convié et se rend à nos événements de convivialité qui permettent de créer du lien entre voisins avec ou sans domicile. Dans une logique de rendre ces liens de plus en plus durables.
Flore de Ruffs, donc chef de ce projet appelé Linked Out, donc encore une initiative admirable, initiative associative, donc Linked Out sur Internet. Merci beaucoup de ce témoignage. Aniyag à Montpellier, le logement, c'est bien, mais on vient de l'entendre, il faut derrière un accompagnement et un emploi pour se réinsérer. Comment fait-on à Montpellier ?
Alors, bien sûr, il est évident que un toit sur la tête, c'est bien, et c'est le début juste de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sécurisé par rapport à son logement, il faut partir, bien sûr, sur un accompagnement social qui permette à la personne de sortir de la précarité et d'aller vers l'emploi. Mais aller vers l'emploi, c'est pas si simple que ça. On a affaire à des personnes qui ont été abîmées physiquement, psychiquement. Donc, on doit s'occuper de leur santé. On doit d'abord vérifier qu'ils ont bien accès à tous leurs droits. Il faut également les réinsérer à un mode de fonctionnement complètement différent, c'est-à-dire pouvoir se lever à heure fixe, respecter ses heures de rendez-vous, le réapprentissage finalement d'une vie ordinaire dans une société. Et tout ça, c'est fait par l'accompagnement de travailleurs sociaux qui sont spécialisés là-dedans. Et à Montpellier, on a mis également en place un dispositif qui s'appelle Uni Vert, en deux mots, qui est porté par le Centre communal d'action sociale et qui accompagne des personnes très éloignées de l'emploi pour qui aucune solution, par exemple à Pôle emploi, n'a été trouvée. Et ces personnes, justement, viennent pendant 6 semaines où elles sont suivies quotidiennement. Et elles ont des entretiens, bien sûr, individuels, mais aussi elles participent à des actions collectives. Et c'est vraiment, le but, c'est vraiment de restaurer la personne, la reprise de confiance en soi, le changement de l'image de soi. Et en même temps, on leur donne accès à la culture, puisqu'à Montpellier, on a beaucoup d'établissements culturels qui sont gratuits, comment on peut participer à toute cette dynamique culturelle de la ville de manière totalement gratuite, la pratique du sport qui rentre aussi dans la santé. On fait un bilan de santé, on fait un bilan de compétences, on les initie à la pratique d'Internet où on les perfectionne. On a également des cours de langue de perfectionnement. Ces personnes sont accompagnées selon leurs problématiques propres. L'année dernière, il y a un an, on a accompagné 134 personnes, on a eu 70% de sorties positive, vraiment positive. Et je crois que c'est vraiment un grand encouragement pour nous.
Pour continuer. En ligne avec nous également, Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris, chargée des solidarités et de la lutte contre l'exclusion. Bonsoir Dominique Versini.
Bonsoir.
Alors même question avant d'aller plus loin que tout à l'heure. Est-ce que tout est sous contrôle ce soir, là, compte tenu de la canicule? Tous les dispositifs ont été réactivés?
Tous les dispositifs sont réactivés déjà depuis quelques jours. Les maraudes pour aller en direction des sans-abri ont des horaires extrêmement élargis, sont augmentés. Il y a des distributions de gourdes d'eau parce que c'est vraiment extrêmement chaud. Je vais d'ailleurs me rendre, je vous quitterai dans quelques minutes, je vais me rendre pour faire une maraude de terrain justement avec notre unité d'aide aux sans-abri qui tourne toute la journée pour voir comment vont les personnes. Nous avons mis à disposition, nous avons ouvert un gymnase de plus, sachant qu'il y a déjà 21 900 places ouvertes dans Paris, ce qui est énorme, mais jamais suffisant.
Oui.
Puisque nous avons des campements aussi de réfugiés dans le nord de Paris avec plus de 2000 personnes à la rue.
Alors il y a aussi il y a aussi cette problématique particulière à Paris des réfugiés, mais c'est encore autre chose. Au-delà des mesures d'urgence, Dominique Versini, que fait-on à Paris pour trouver à ces sans-abri des logements pérennes?
Mais à Paris. Comme je vous l'ai dit, c'est une situation un peu particulière puisqu'il y a énormément de gens qui viennent sur Paris. Donc il y a 21 900 places d'hébergement d'urgence et d'hébergement d'insertion. Il y a également des lieux d'accueil de jour. Il y a des restaurants solidaires qui permettent aux personnes de venir manger dans des lieux qui, le midi, sont ouverts aux personnes âgées précaires et le soir, sont ouverts aux sans-abri. Et surtout, nous sommes, avec l'ensemble des associations et l'État, unis dans un pacte de lutte contre la grande exclusion qui nous permet d'agir tous ensemble, car je crois qu'en matière d'aide aux sans-abri, on ne peut pas le faire si on n'est pas ensemble avec nos compétences différentes et complémentaires.
D'ailleurs, vous revendiquez l'extension de la gestion du SAMU social, si j'ai bien compris. Vous souhaiteriez qu'il soit géré par l'ensemble de la métropole, plutôt?
Ah oui, moi je pense, pour avoir créé le SAMU social de Paris en 93 avec Xavier Emmanuelli, je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à la version, une nouvelle version, compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes, de la variété des publics. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer au sein d'une ville, on peut gérer qu'au sein de la métropole. Oui, je pense que le SAMU social doit devenir métropolitain ou régional.
Le 115 est régulièrement saturé à Paris, on le sait.
Oui, le 115 était saturé, je dois dire, depuis le jour de sa création. Et il n'a jamais cessé de l'être parce que de nombreuses personnes arrivent vers la capitale et de nombreuses places ont été ouvertes. Comme il y a de nombreuses personnes qui arrivent, on est en permanence à gérer de l'urgence sociale. Et c'est extrêmement compliqué.
Mais comment fait-on quand on appelle, comme nous le disait Lise tout à l'heure, même si elle l'appelait de Lyon, mais comment fait-on quand on veut aider et que le 115 ne répond pas?
Mais écoutez, d'abord, il y a des maraudes qui sillonnent toute la capitale. Il y a des 25 équipes de maraudes différentes. Qui sont en permanence en train de tourner pour aller au devant des personnes. Il y a aussi des maraudes citoyennes. Le 115, effectivement, est long à répondre parce qu'il a énormément d'appels. Il est renforcé par l'État. Je rappelle que le 115 dépend de l'État. Il faut persévérer. Et la problématique, elle est surtout que nous devons aussi passer à une nouvelle étape et avoir beaucoup plus de places d'hébergement. Vous avez dit que c'est une problématique différente, mais ce matin, j'étais sur le terrain, il y avait quand même 2000 personnes réfugiées dans la rue pour lesquelles il n'y a pas de place d'hébergement. Donc ça, c'est vraiment un grand cri d'alarme que la maire a posé d'ailleurs et a posté aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est une situation vraiment préoccupante.
Parmi les sans-abri, c'est à peu près 60% de Français, 40% d'étrangers, je crois.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, on ne prend jamais la nationalité des personnes. Mais il y a des personnes, effectivement, qui ont un profil plus classique, qui ont perdu leur travail, qui ont eu une explosion de la vie familiale et qui sont plutôt, en tout cas, résidents en France. Et il y a des personnes, surtout depuis 2015, qui arrivent nombreuses pour trouver refuge en France. Et donc, on doit gérer la complexité de toutes ces situations. C'est pour ça que je dis qu'il faut penser autrement, avoir d'autres dimensions et travailler toujours ensemble, l'État, les collectivités et les associations, car sans les associations, on ne peut pas grand-chose.
Bien sûr. Merci beaucoup Dominique Versigny, adjointe à la mairie de Paris, chargée des solidarités. On vous laisse partir pour votre maraude. Merci.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Comment redonner un toit à tous nos sans-abriers, et notamment, puisque nous parlons avec le SAMU social ce soir, notamment aux plus âgés d'entre eux. Alexandre nous appelle de Paris. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Merci pour vos émissions. Alors moi j'interpelle immédiatement Dominique Versigny.
Elle est partie.
Ah, elle est partie. Bon, j'espère qu'elle écoute encore. Moi, je suis militant. J'interviens dans pas mal de domaines divers et variés, notamment en s'occupant des réfugiés. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu dans le discours que j'entends depuis tout à l'heure, avec des volontés associatives qui sont conventionnées par l'État. Donc, du coup, il y a un frein sur toutes les choses qui pourraient être illégales, peut-être réadaptées par l'État suite au mal logement. C'est-à-dire que on se voile la face et on oublie une partie de l'architecture de ce qui va créer la précarité jusqu'à la perte du logement, ou voir des gens qui sont dans la rue depuis très longtemps. Il y a une étude qui a été menée par France Info en juillet 2017 sur le mal logement, qui a révélé par exemple que en Île-de-France, en tout cas à Paris proche couronne, il y avait pas moins de 200 000 logements vides, dont 97 000 sont totalement inoccupés. Et on s'est rendu compte également par cette étude que à la fin des années 60, vous aviez à peu près 5% de logements vides, et ce chiffre-là a quintuplé dans les dernières années, notamment par des politiques de logement qui, on va dire, je le schématise comme ça, s'adressent aux personnes les plus aisées, et ce sont ces personnes-là qui ont les clés qui ont les clés pour régler le mal logement. On notait par exemple qu'il y avait 150 000 personnes en France recensées comme étant mal logées ou pas logées du tout. Et si on se dit qu'il y a ces 200 000 logements vides en Île-de-France, on pourrait se dire demain qu'on pourrait régler cette question. On n'aurait plus besoin de faire des missions à ce sujet.
Donc la réquisition, la réquisition.
En fait, peut-être sans aborder la réquisition immédiatement, commencer par des sanctions financières relativement lourdes.
Vous parlez des logements appartenant à des privés ou les logements publics ?
Majoritairement des logements appartenant à des privés, et dans un second temps je voulais aussi parler de l'ouverture des squats, qui est une mesure alternative qui reste pour l'instant illégale et très sévèrement sanctionnée par la justice pour ceux qui se portent garants de cette ouverture des squats, qui sont donc représentés et qui vont déposer une main courante au commissariat en disant voilà, on a ouvert ce lieu-là. Ça tient jamais longtemps, mais ça nous permet d'héberger en urgence des familles, des femmes, des enfants, des sans-abri, sans faire de distinction de priorité, que ce soit des Français, des étrangers, des réfugiés, voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Alexandre. Effectivement, Nathalie nous dit aussi par mail qu'il y a des tas de biens immobiliers en désuétude partout. Ne faudrait-il pas d'abord faire le ménage au niveau du droit concernant l'immobilier pour venir en aide aux plus démunis ? Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Baud ?
Ouais, je pense qu'effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Après, dans la mise en œuvre, ça reste un peu plus complexe. Enfin, moi qui suis travailleur social, je suis éducateur spécialisé de formation, j'accompagne des personnes dans le quotidien, et c'est vrai que ça, c'est des mesures qui sont à un autre niveau pour lequel moi, j'ai pas trop d'accès. C'est vrai que dans le quotidien, moi, j'observe le manque de logement, et c'est vrai que ça ferait du bien dans le quotidien de mon action de pouvoir accompagner des gens vers le logement. Et
on voit beaucoup, effectivement, de squats murés par des parpaings, de logements vide.
Et moi, parmi les publics que j'accompagne beaucoup de gens qui ont vécu une bonne partie de leur vie en squat et qui arrivaient à un âge où ils peuvent plus assumer de vivre dans un squat parce que la vieillesse venant, les complications somatiques arrivent. Il faut trouver des solutions pour ces personnes qui sont un peu plus médicalisées. Voilà. Après, je pense que c'est effectivement peut-être une solution pour un certain type de public. En tout cas, moi, pour le public que j'accompagne, ça reste très problématique du fait de leurs difficultés somatiques.
Alors, Connie Denis par mail nous dit qu'il existe à Toulouse une structure alternative qui s'appelle la Maison Goudouli, qui permet à d'anciens sans-abri d'habiter en collectif avec l'aide d'une équipe d'accompagnants. Les personnes intégrant ce logement collectif peuvent y rester le temps qu'elles veulent, mais cette structure qui a vu le jour il y a 8 ans peine à survivre parce qu'elle peine à trouver des financements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à Niag, à Montpellier, on peut pas toujours compter sur le mouvement associatif, il a besoin de soutien.
Oui, mais c'est exactement ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'au travers des subventions qu'on accorde, on aide les associations à continuer leurs actions. On sait qu'on peut pas être partout, et à travers les subventions, on permet aux associations aussi de continuer à exister et exercer l'excellent travail qu'ils font sur le terrain. Après, on vient de parler des logements privés, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On touche au droit de la propriété, et c'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça à l'arrache, ni on peut même pas donner un avis là-dessus. C'est un problème qui doit être traité au travers de la législation, donc de lois qui seraient votées. Et je vois pas comment on peut sortir de cette opposition. C'est vrai que les associations qui sont très militantes, et j'ai bien vu que votre intervenant était très militant, et il faut des militants, parce qu'ils aident à faire avancer les choses. Mais il y a un juste milieu entre le tout et rien. Et justement, nous devons voir à quel niveau on peut mettre la barre. Hein. On peut pas faire n'importe quoi avec, par exemple, les appartements qui ne nous appartiennent pas. S'il y a une loi là-dessus, on pourra intervenir.
Mais ça fait des années
ça
fait des années qu'on le dit. Que cette loi pourrait être au moins étudiée, préparée, proposée. On ne voit jamais rien venir.
Oui, alors là, c'est vraiment une compétence de l'État et de l'Assemblée. Ça n'est pas du tout une compétence locale. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut aussi revoir les conditions d'attribution des logements sociaux. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Maintenant, le retard est tellement important, il a été pris depuis de nombreuses années, que la solution miracle n'existera pas. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller, comme nous l'avons fait sur la métropole de Montpellier, sur un nouveau plan qui est le logement d'abord, hein, et qui va nous permettre finalement de l'intégrer à ce qui existe déjà sur notre territoire, et surtout en harmonie avec les dispositifs qui sont déjà en place. Hein. Complémentarité et harmonie. On ne fera pas les choses autrement. Un dispositif s'ajoutant à l'autre, on progresse. Bien sûr, pas assez vite pour toutes les personnes qui sont en difficulté, mais on progresse. Et je pense que l'essentiel, c'est d'avancer. Et surtout, on a bien compris aujourd'hui qu'il ne s'agit pas seulement de donner un logement, et on l'avait vu avec le ministre quand il était venu. Hein. L'important, c'est aussi l'accompagnement social, parce que on ne doit pas permettre aux gens de survivre, mais de sortir de la précarité et de redevenir autonomes et arbitres de leur propre vie.
D'autant qu'un quart aujourd'hui à peu près des sans-abri ont un emploi, hein, mais la plupart ne gagnent pas suffisamment d'argent pour se loger. Ils ne gagnent pas 1000 euros par mois, hein, donc un quart d'entre eux d'après les dernières statistiques. Alain nous appelle de Bourgueil. Bonsoir Alain, vous serez sans doute le dernier à nous appeler ce soir.
Bonsoir France Inter. Alors juste une idée comme ça, comment ne pas faire le lien entre le fait qu'il y ait des gens mal logés, peu logés, pas du tout logés, salariés ou retraités, et ce qui s'est passé récemment, où l'État fait des tentatives de prédation sur les fameux fonds du 1% logement versé par les entreprises, et l'État cherche grosso modo à piquer dans la caisse au motif que ce serait mal géré, etc., etc. Y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là, parce que les entreprises contribuent normalement au logement de leurs salariés, alors que où va l'argent ? Qui fait quoi ?
Alors oui, ben merci de votre remarque. C'est aussi ce que nous dit Thibault par mail, que le 1% logement, ça rapporte des dizaines de milliards. Alors pourquoi ne pas destiner une part de cet argent pour loger les plus précaires ? Vous avez une réponse à cela, Aniag ?
Absolument pas. Je ne pourrais pas vous donner des informations. Je ne sais pas du tout ce 1% logement, comment il est utilisé. Hein, il va pas dans notre poche. Donc, je vous dirai des bêtises. Je préfère.
C'est pas du ressort des municipalités. En revanche, Cécile par mail nous dit qu'elle travaille à Montpellier. Elle est professeure de français pour les étrangers, et elle est confrontée au grand nombre de personnes qui sont dans la rue. à Montpellier. Que peut-elle faire lorsqu'elle voit une femme dans la rue qui ne souhaite pas aller en foyer d'accueil? Une femme enceinte même, dit-elle. Ou une femme avec un enfant en bas âge. Comment peut-elle les aider? Vous avez un numéro? Vous avez une adresse?
Mais si cette personne veut m'écrire, je lui donnerai toutes les informations utiles. Alors, il faut savoir qu'une personne qui, si elle est enceinte, si elle a des enfants en bas âge, elle dépend du département qui est en charge de ces familles où les enfants ont moins de 3 ans, où la personne est enceinte. Nous avons un CHRS aussi qui accueille des femmes quand elles sont victimes de violences. Et dans la rue, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas aller en accueil parce que, évidemment, elles sont soumises quelquefois à des violences, quelquefois à pire. Et pour elles, c'est vraiment un danger que de se retrouver en milieu collectif. Donc, ces personnes, normalement, doivent être accompagnées par l'aide à l'enfance du département. Mais on peut aussi, si elles sont victimes de violences, nous avons des appartements d'urgence pour les familles, comme ça, monoparentales.
S'adresser donc à la mairie. Merci en tout cas, Annie Yac, d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à vous, Thomas Baude. Donc, je rappelle la campagne du SAMU social de Paris, ne les laissons pas vieillir dans la rue. C'est fini l'image du clochard désocialisé. Aujourd'hui, les sans-abri, c'est vous et moi.
Exactement, ouais. C'est des parcours de vie qui sont très multiples et parfois, moi j'accompagne d'anciens PDG, d'anciens cadres d'entreprise qui sont arrivés jusqu'à nous, jusqu'à appel 115 et avoir recours au SAMU social de Paris.
Voilà, et donc je renvoie sur le site internet du SAMU social. Merci à vous et merci à Dominique Versigny, donc adjointe à la maire de Paris, qui nous a appelé tout à l'heure.